Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et oui, c'est la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine, vous souhaitez commenter les principaux événements, eh bien appelez-nous, vous souhaitez nous sensibiliser sur des sujets dont on ne parle pas suffisamment, eh bien là aussi vous êtes les bienvenus, 33 9 693 693 70, les réseaux sociaux, le compte Twitter de l'émission, mais aussi la page Facebook, RFI Appel sur l'actualité, c'est la page officielle de l'émission, donc surtout rejoignez-nous. Et nous vous donnerons la parole durant les 20 prochaines minutes. Vous êtes encore nombreux ce matin à nous parler du Burundi, où l'opposition, vous le savez, reste déterminée à poursuivre sa mobilisation pour essayer de contrer la candidature de Pierre Nkurunziza, qui brigue un troisième mandat, une candidature jugée par les opposants comme étant anticonstitutionnelle. En tout cas, le pouvoir affiche sa fermeté. Mercredi soir, le président sortant a réaffirmé son intention de se présenter le 26 juin prochain. D'ailleurs, on peut s'interroger sur cette date. Sera-t-elle respectée? Peut-on vraiment organiser, vu le climat actuel, un scrutin présidentiel dans un mois et demi? Yves Franck nous appelle de Bujumbura. Bonjour Yves Franck.
Bonjour Juan, bonjour les fidèles auditeurs de RFI.
Merci de nous écouter sur place. Vous disiez il y a quelques instants au Standard qu'il fallait impérativement une intervention de la communauté internationale, car vous, Yves Franck, vous craignez le pire dans votre pays.
Oui Juan, je crains le pire dans le sens où on voit toujours la résurgence de la violence, comme pas mal de personnes continuent à suivre l'actualité ici au Burundi, il y a plusieurs morts et je pense que la communauté internationale doit maintenant même intervenir pour empêcher le drame.
Il y a eu 4 morts hier, ce qui fait un total d'au moins 18 morts hein, depuis le début de la contestation, depuis maintenant 13 jours. Qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale? On a entendu John Kerry, par exemple, il y a quelques jours, en visite au Kenya, taper sur la table et faire pression sur les autorités. Mais ça, voilà, ce ne sont que des propos. Lorsqu'il dit cette candidature va à l'encontre de la Constitution, vous souhaiteriez entendre quoi de plus de la part du secrétaire d'État américain?
Vous savez, Juan, le Burundi n'est pas un îlot, il ne doit pas rester seul. Donc, ce que j'attends de la communauté internationale, c'est qu'il puisse continuer à faire des pressions par tous les moyens. Et s'il le faut même, d'abord, envoyer des témoins, des missions d'observation pour être des témoins oculaires des exactions commises par les éléments de la police et de la milice qu'on a ici au Burundi. Mmh. Mais également, il faut aussi davantage le temps pour barrer la route au président par tous les moyens, en lui ramenant au respect de la loi, des accords d'Arusha, sans toutefois se contenter de discours flous, ambigus, qui ne se suivent pas d'actes concrets. Et par là, je veux dire, il faut des sanctions ciblées s'il le faut, au moment où il ne parvient pas à céder à ces conseils qui lui sont prodigués par ses homologues et partout, par la population et même la communauté internationale.
Est-ce que vous avez l'impression, Yves Franck, d'être soutenu par le reste du continent africain? Je citais à l'instant la réaction de Washington, mais on peut citer également les réactions à Paris, à Bruxelles, la Commission européenne. Mais sur le continent africain, les réactions se font rares. Il y a eu quand même hier cet entretien accordé à une télévision chinoise, entretien de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Elle a dit le climat n'est pas propice à la tenue d'un scrutin et d'ajouter qu'il ne pouvait y avoir de troisième mandat car ce projet, selon elle, viole la constitution du pays et menace la paix au Burundi. Les voix africaines se font rares quand même sur cette question et sur la situation dans votre pays.
Justement, Juan, il faut comprendre la politique en Afrique parce que c'est tout le monde qui fait ça. Il y a bientôt Kagame, on ne sait pas ce qu'il va faire. Vous savez ce qui s'était passé au Congo. Nous sommes dans un pays. Il y a Museveni qui vient de passer plusieurs décennies. Je trouve pas vraiment de raison pour ces Africains de hausser le ton pour lui. Mais toutefois, on ne sait jamais. Ils peuvent peut-être changer, devenir des avocats du peuple opprimé. Je dois comprendre quelque part la politique des chefs de l'État, la politique des chefs d'État ici dans la sous-région et même en Afrique.
Bien.
Ils veulent s'éterniser au pouvoir sans toutefois faire grand-chose pour le pays. Donc je dois déplorer son comportement, cette attitude.
Merci beaucoup Yves Franck de nous avoir appelé. On aura l'occasion évidemment la semaine prochaine de revenir sur le climat tendu au Burundi et la mobilisation de l'opposition. 33 9 693 693 70. On va parler de la Guinée où l'opposition là-bas aussi proteste. Elle proteste contre le calendrier électoral. Elle réclame que les élections locales prévues dans 10 mois se tiennent avant la présidentielle d'octobre prochain. Sinon, assure-t-elle, il y aura des fraudes. En tout cas, depuis maintenant 1 mois, l'opposition multiplie les manifestations. Bonjour Kaba.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale.
Vous êtes à Conakry et vous dites, il y en a marre des manifestations, il est temps que ça s'arrête.
Oui, Juan, il est temps que ça s'arrête. C'est-à-dire quand il y a manifestation à Conakry, ce n'est pas comme en France où les gens prennent des pancartes pour aller. C'est des gens qui sont là, qui versent de l'huile sur le goudron pour faire accidenter des Guinéens. Est-ce que ces Guinéens qui sont accidentés sont de l'opposition ou sont du pouvoir? On brûle les pneus sur le peu de goudron que nous avons en Guinée. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de négociation. Hein. Quand le président Alpha, il était aux États-Unis, il a envoyé ses ministres, 4 grands ministres du gouvernement, plus son secrétaire général à la présidence, rencontrer l'opposition. Ils ont dit, nous ne prenons pas la main tendue. Ensuite, quand les ambassadeurs qui sont accrédités ici ont tenté de le faire, Lascaris, l'ambassadeur des États-Unis, l'a fait. Bertrand Cochery, l'ambassadeur de France, a été. Ils ont passé, les députés même de l'opposition passent tout le temps à les insulter sur les différentes radios ici et à les traiter de n'importe quoi. Quand on veut diriger un pays, on ne peut pas ignorer la communauté internationale. Mais la manifestation d'hier était une manifestation de trop.
Alors, il y a une manifestation effectivement hier, et ce n'est pas la première depuis le début du mois d'avril. Effectivement, certains ont perçu la manifestation d'hier comme une véritable provocation, puisqu'il se trouve que quelques jours plus tôt, c'est là où d'Alain Diallo, le chef de file de l'opposition, avait reçu une lettre du président de la République, l'invitant à venir aujourd'hui, vendredi matin, au palais présidentiel pour un tête-à-tête. Les deux hommes ne se sont pas vus, n'ont pas discuté depuis maintenant 3 ans. Le chef de file de l'opposition a accepté dans un premier temps cette invitation. Et puis hier, il a dit, eh bien non, je m'abstiens d'honorer ce rendez-vous. Il faut dire que la manifestation d'hier, quand même, Kaba, elle a été réprimée une fois de plus par les forces de l'ordre.
Oui, Juan, ce n'est pas de la répression. Mais l'État guinéen a le devoir, l'impérieux devoir de protéger les populations guinéennes qui doivent aller à leur marché, qui doivent faire leur circulation. Ce ne sont pas des manifestants, ce sont des loubards qui versent de l'huile sur le goudron, qui s'attaquent aux voitures des gens. Vous pensez que l'État va laisser ces gens-là faire leur loi?
Oui, mais enfin, à chaque manifestation, Kaba, il y a des blessés, il y a même des morts. Hier, il y a eu un mort, il y a eu plusieurs blessés, une quinzaine selon l'opposition, 4 d'après le gouvernement, c'est le bilan officiel des autorités. On comprend votre colère, en tout cas, on l'entend, Kaba. Ne raccrochez pas, on a l'un de vos compatriotes, donc un autre Guinéen, mais qui lui vit à Paris. Zagamore, bonjour.
Oh, bonjour Juan, bonjour vos auditeurs, à tout le monde. Merci Juan.
Je vous en prie, on est là pour vous donner la parole. Vous comprenez le ras-le-bol exprimé à l'instant par Kaba?
Ah oui, je comprends bien la position de Kaba, mais il faut que M. Kaba sache que c'est pas hier les manifestations, c'est pas avant-hier. Ça commence il y a déjà depuis plus longtemps, parce qu'on est dans l'illégalité complètement dans ce pays. Alors, si nous regardons les causes de ces manifestations, il faut s'en tenir aux causes d'abord, et non pas les résultats. Parce que on est là, depuis que Alpha Condé est au pouvoir, c'est toujours manquer à la loi constitutionnelle, c'est déraper complètement, on ne comprend plus rien.
Mais par exemple, lorsque l'opposition réclame l'annulation du calendrier électoral, qu'elle demande d'organiser d'abord les élections locales et ensuite l'élection présidentielle, sinon il y aura des fraudes, est-ce que cette revendication vous semble légitime, et si oui, pourquoi?
Ah oui, ça me semble très légitime, you know. C'est tout à fait normal que l'opposition refuse les élections présidentielles avant les communales, parce qu'elles sont expirées depuis le 17 décembre 2010, chose qui est tout à fait légitime. On ne peut pas aller aux élections présidentielles avec des délégations spécialisées en fraude, oui, comme je les appelle.
D'accord, hein? Ce sont des délégations spéciales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'élections municipales comme prévu en 2010. Du coup, certains maires ont été remplacés par des délégations spéciales, et l'opposition accuse ces délégations d'être complices du pouvoir. Et donc, l'opposition dit, si on organise la présidentielle avant, forcément, ces délégations spéciales vont tout faire pour essayer de trafiquer les résultats et de frauder le scrutin présidentiel. Kaba, vous qui êtes à Conakry, vous comprenez quand même malgré tout la principale revendication de l'opposition, ou tout ça c'est du cinéma?
Ouais, c'est un faux débat. La dernière élection législative en Guinée, l'opposition a gagné les 5 communes de Conakry. Les 5 communes, il y a des délégations spéciales. La CENI est composée de 25 membres, 10 de l'opposition, 10 du pouvoir, 3 de la société civile, 2 de l'administration.
Oui.
Et cette CENI est décentralisée jusque dans le dernier village. L'opposition est représentée à tous les niveaux. La délégation spéciale n'a rien à voir avec une élection.
Bon,
si la délégation spéciale avait quelque chose à voir avec les élections, le pouvoir aurait gagné les députés dans la capitale, mais tous les 5 députés de la capitale sont de l'opposition.
De l'opposition. Très bien. En tout cas, vous avez chacun votre point de vue, vous avez pu l'exprimer, et le débat sera prolongé lundi. On reviendra évidemment sur la situation en Guinée. Ce sera notre débat du début de la semaine, et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant, 33 9 693 693 70. Merci donc à Zagamor de Paris et Kaba de Conakry. Michael, bonjour.
Bonjour, Juan. Je profite de ton antenne pour dire merci à tous les journalistes de RFI et les journalistes du monde entier, car vous êtes la voix des sans-voix.
Bah écoute, merci de vos encouragements. On a envie, évidemment, tous les matins de vous donner la parole, vous qui nous écoutez à travers le monde. Vous, en l'occurrence, vous êtes dans le sud de la France. Vous nous appelez d'Aix-en-Provence. Et vous profitez de la libre antenne pour nous interpeller sur les drames de l'immigration en Méditerranée. Je rappelle quand même ce chiffre qui fait froid dans le dos depuis le début de l'année. 1800 personnes sont mortes en voulant gagner l'Europe. Et vous disiez au Standard, comprendre cette immigration illégale.
Tout à fait, Juan. Si vous voyez tous ces candidats pour l'immigration illégale, ce ne sont pas des candidats à la mort. Ils veulent chercher un lendemain meilleur. Mais le problème de visa n'est pas facile. Moi, je vous donne mon cas, mon exemple précis. Mmh. Je vis en France, dans ce pays que j'aime tant, depuis 20 ans, légalement. J'ai un problème de visa, du regroupement familial depuis 3 ans. Donc, je peux profiter de votre antenne pour prier Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la France en Guinée-Conakry, Son Excellence Bertrand Cochery, de bien vouloir accorder le visa à ma famille, s'il vous plaît. Donc, si vous voyez que les gens ils se jettent dans la Méditerranée, ou bien en pleine mer, c'est parce que quand on va chercher le visa légalement, on ne l'obtient pas.
Ouais. Et donc, vous, ça fait 3 ans que vous essayez de faire venir votre femme, vos enfants, et vous n'y parvenez pas. Et donc, vous nous dites, d'une certaine façon, dans mon cas, je ne suis pas le seul, et donc on peut comprendre, quand on veut faire venir sa femme et ses enfants et qu'on ne peut pas légalement, qu'on essaye de les faire venir illégalement. C'est ça?
Oui, tout à fait. Parmi ces immigrés-là, vous avez des étudiants, vous avez des fonctionnaires, vous avez des mères de famille. Ce sont pas des... Ils sont pas tous idiots. Ils savent. Il y en a qui fuient par misère, il y en a qui fuient pour des raisons politiques, et il y a aussi pour des raisons économiques. Pour moi, la France, c'est la terre de justice, de la liberté, des droits de l'homme. Si Monsieur le Préfet a bien voulu m'accorder mes droits en me donnant l'accord pour faire venir ma famille, Je prie son excellence, M. Bertrand Cochelet, de bien vouloir.
Très bien, bah, je pense qu'il a entendu le message. Merci beaucoup, Michael, de nous avoir interpellés sur ce point. Merci d'écouter RFI sur Internet à Aix-en-Provence. On va s'intéresser maintenant aux résultats des élections législatives au Bénin. Avec 33 députés sur 83, l'alliance qui soutient le parti, le président Boni Yayi, reste la première force politique du pays. Elle perd quand même un peu de terrain. Bonjour Vital.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Et vous dites que c'est une bonne chose finalement pour la démocratie béninoise que le président Boni Yayi n'ait pas obtenu la majorité à l'Assemblée nationale.
Mais c'est toujours bien pour la manifestation de la démocratie, pour que le pouvoir en place n'ait pas une majorité au Parlement. Sinon, le Parlement devient une chambre d'enregistrement. Eh bien, toutes les accusations qui disaient que le pouvoir en place allait tricher pour avoir la majorité au Parlement aujourd'hui, on a bien vu que ce n'est pas le cas. Mais le pouvoir en place est toujours la première force politique. Nous savons qu'au Bénin, il y a toujours le jeu des alliances.
Oui.
Alors, nous attendons de voir comment ça va se passer au niveau des postes du bureau de l'Assemblée nationale.
Oui, parce que l'opposition, il faut le dire, craignait effectivement que la mouvance présidentielle ait la majorité absolue au Parlement, notamment car l'opposition soupçonne le président de vouloir modifier la Constitution et de faire sauter le verrou des deux mandats non renouvelables. Ne raccrochez pas Vital, car Bienvenue, lui, est à Porto Novo, donc également au Bénin. Bonjour, Bienvenue.
Bonjour Juan, bonjour Vital. Eh bien, Juan, moi je voudrais dire d'entrée tout de suite que l'alliance FCBE n'est pas la première force politique ici au Bénin. Ça, je vous le dis, c'est une alliance à 150 partis. Eh bien, pour parler de la
force... Enfin, peu importe, excusez-moi, l'alliance FCBE, c'est l'alliance qui soutient le président Boni Yayi, elle porte bien son nom, c'est une alliance, donc forcément ce n'est pas un seul parti, c'est plusieurs partis, alors qu'ils soient 30, 40 ou 150 comme vous le dites, quoi qu'il arrive, cette alliance est la première force politique du pays. Vous pouvez pas aller à l'encontre des chiffres.
Eh bien, bon d'accord, eh bien, entrons dans le jeu. Je voudrais dire tout simplement que Boni Yayi doit perdre effectivement la majorité à l'Assemblée nationale, juste pour trois raisons. Eh bien, je vous dis, la première raison, son ambition que vous venez d'évoquer tout à l'heure, d'avoir 50 députés à l'Assemblée de la 7e législature, eh bien, a suscité pas mal de questions dans la tête des Béninois ici. Boni Yayi est en fin de mandat, il y a 10 mois, de la fin de son mandat. À quoi servent alors les 50 députés que Boni Yayi voudrait avoir?
Attendez, parce que vous lancez une polémique. À quoi servent les 50, à quoi auraient pu servir les 50 députés que Boni Yayi voulait avoir au Parlement? Vous posez la question, je vous la pose. Allô?
Si Boni Yayi voudrait avoir les 50 députés, Juan Gomez,
oui.
Je vous dis, c'est bien pour faire passer cette loi de la révision de la Constitution, du moins ce projet de la révision de la Constitution qui est toujours dans le tiroir à l'Assemblée nationale.
Mais que faites-vous des propos de Boni Yayi qui, le jour du scrutin, donc des élections législatives, a dit « je ne serai candidat à rien ». Ça veut bien dire qu'il n'a pas envie de modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat.
Écoutez, Boni Yayi a fait des Béninois son prénom, Thomas. Les Béninois sont devenus Saint Thomas depuis que Boni Yayi est venu au pouvoir. Je puis vous dire, à travers un proverbe africain qui dit, le lion ne dit jamais à la gazette qu'il va la tuer. Mais il ne la tue pas surprise. Nous, on est éveillés ici, Boni Yayi va réviser la Constitution, si jamais les Béninois dorment. Je vous dis, Boni Yayi aujourd'hui, la lutte contre Candide Azanayi, c'est par rapport à cette affaire de révision de Constitution à Candide.
D'accord, donc ça veut dire que vous ne croyez pas aux propos du président Boni Yayi. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Nicéphore Soglo, ancien président, qui est l'un des leaders de l'opposition. Lui n'est pas convaincu par cette promesse de Boni Yayi. Les gens sont comme Saint Thomas, a-t-il dit. Ils ne croient plus du tout aux déclarations des uns et des autres. Vous y croyez, Vital, aux propos du président?
Or, le plus important, c'est de ne pas d'y croire ou de ne pas y croire. Mais il faut comprendre que les Béninois sont très dynamiques, que la démocratie, elle est très, très vive au Bénin et que personne ne pourra changer la constitution de la République du Bénin.
Bon.
Il est clair que le débat est un faux débat. C'est ailleurs. Tous ces opposants avaient à un moment ou à un autre collaboré avec le pouvoir en place. Et ils ont perdu quelque chose. Hein. C'est eux qui savaient ce qu'ils avaient et qu'ils ont perdu. Mais le président Bonilla a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il exerçait son deuxième et dernier mandat.
Il l'a dit. Maintenant, voilà, est libre à eux de le croire ou pas. Merci à vous. C'est comme ça qu'on terminera aujourd'hui la Libre Antenne. On aura là aussi l'occasion certainement de parler du Bénin dans les prochaines semaines. Merci à tous. Lundi, à ce micro, vous retrouverez Sébastien Lemet pour un débat donc sur la crise politique en Guinée, ce bras de fer entre l'opposition et le pouvoir qui se durcit autour du calendrier électoral. Les manifestations se poursuivent et le chef de file de l'opposition qui a finalement refusé donc de rencontrer ce matin